quand il va ouvrir les écluses des cieux, il va pleuvoir une autre sorte de pluie. Ouvrons les écluses des cieux et qui pleut et qui pleut. Oh oui, ouvrons les écluses des cieux.
La Bible, les chrétiens et la richesse. Hier, nous avons simplement introduit et nous avons dit que notre premier point, c'était une introduction générale, mais c'était aussi une manière pour nous de voir la raison d'être de cet enseignement. Souvenez-vous que nous avons voulu répondre à deux questions essentielles. Non seulement le pourquoi de cet enseignement, et nous avons donné quatre raisons, mais le pourquoi de cet intitulé. Hier, nous avons commencé à parler de la richesse. Partant d'Abraham, de Jacob,
Isaac,
et même Job. Nous avons montré la réalité de la richesse avec les patriarches. Et je lisais ce matin dans l'Ancien Testament, là où il est dit, Ecclésiaste 10 au verset 19. On dit l'argent répond à tout. C'est un peu exagéré, certains diront. Mais la pensée cachée derrière, c'est tout ce que les revenus, tout ce que la voix peut apporter comme solution. La capacité qu'a ces biens et satisfaire nos besoins matériels.
Mais
en étudiant la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on arrive à une apparente conclusion à deux points. Je dis apparente parce que cette conclusion est apparemment contradictoire. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, la richesse ou l'abondance semble être le symbole de l'alliance de Dieu avec un homme. Et même de son approbation du style de vie de quelqu'un. Et la pauvreté, surtout la pauvreté extrême, est présentée comme un symbole de malédiction et de rejet. En lisant Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 13, la Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Et écoutez le verset 13. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton blé, de ton mou et de ton huile, de porter de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Toujours Deutéronome chapitre 8 au verset 18 que nous avons lu déjà, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces choses. Pourquoi? Afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance. Ces choses sont données pour confirmer une relation. Vous voulez savoir qui est en relation avec moi? Regardez ce qu'il a. Vous voulez savoir qui j'approuve? Regardez ce qu'il a. C'est lui qui donnera la force. Et comme je l'ai dit, il le fera pour un but, confirmer l'alliance. Lisons encore Deutéronome chapitre 28, du 1er verset au 6e, et puis le verset 8 et le verset 12. Du 1er au 6e, et puis le verset 8, ainsi que le verset 12. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu auras un dépôt, tu auras un réservoir. Tu auras sur la table, mais tu l'auras aussi en réserve. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Écoutez le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Écoutez le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
Lola,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et
il
dit pour bénir tout le travail de tes mains. Tu seras productif. Et il termine en disant, tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras parce que tu auras bien plus que ce dont tu as besoin. Après avoir dépensé, tu auras un superflu. C'est ce qu'il dit à son peuple dans l'ancienne alliance. Il place la bénédiction matérielle à un niveau d'importance élevé. Mais en même temps, allons dans Deutéronome 28, versets 15 à 18 et puis verset 23, où la pauvreté est présentée comme une punition. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne serves pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta huche et ton corbeille seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et ton menu bêta, toutes ces choses seront maudites. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers. Donc comme je l'ai dit dans l'ancienne alliance, la bénédiction matérielle et financière est présentée comme un signe de l'alliance, de l'approbation de Dieu. Mais subitement, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament,
je
préfère dire ainsi, une lecture superficielle semble nous montrer comme une contradiction. Je préfère déjà dire une contradiction apparente parce que nous en parlerons surtout les derniers jours. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20, nous entendons Christ dire, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la peine et la rouille détruisent, où le voleur perd ses dérobes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 19, verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, les riches entreront difficilement dans le royaume des cieux. Et une compréhension superficielle reste au niveau de la lettre. L'entrée au ciel ne sera pas liée à ce que nous avons comme avoir. Certains ont vu cela de manière superficielle et n'ont pas vu l'esprit qui était caché. Matthieu 13, verset 22. Les richesses sont présentées comme des épines combattant le travail de la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Il est parlé même d'un attrait trompeur.
Dans
Timothée chapitre 6 au verset 9, l'apôtre déclare à son fils dans la foi: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les
maux.
Remarquez que la Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les
maux.
J'aime beaucoup mon pasteur prêcher un jour. Il a dit: même ne sois amoureux de l'argent, pas seulement ceux qui les ont.
Des fois,
ce sont certains qui n'en ont pas, qui en sont plus amoureux, comme l'homme de Dieu
dit.
La racine de tout le monde.
Et
quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments.
Colossiens
3:5 nous parle de la cupidité comme étant l'idolâtrie. Et certains restant au niveau de la lettre parlent de la cupidité, il ne faut même pas s'attacher à l'argent. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire exactement? Hébreux 13, verset 5: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent.
Contentez-vous
de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais quand nous allons dans les épîtres encore plus loin,
en
Timothée 6, 17, nous est parlé du Dieu qui donne avec abondance. Est-ce qu'il y a contradiction?
Encore
l'écrit aux Corinthiens, il dit: j'aimerais que vous puissiez avoir, afin que votre superflu puisse servir aux
autres.
Je l'ai dit et nous allons y revenir. Une lecture superficielle semble nous faire croire à une contradiction et pourtant il
n'y
en a pas. Retenez bien les principes que j'ai énoncés hier. Le problème n'est pas d'avoir, le problème c'est qui a. Et le problème aussi c'est lui qui a, comment il utilise. C'est pourquoi nous voulons parler, après le premier mot, la richesse, nous voulons parler de celui qui est l'acteur principal, le chrétien. Et là, j'aimerais revenir sur certaines notions que nous, sur lesquelles nous sommes entretenus longtemps le séminaire passé. Je ne vois pas les chrétiens comme un venant à l'église. Je ne vois pas les chrétiens comme quelqu'un qui est passé par les sacrements.
Les
chrétiens, c'est d'abord et surtout un homme et une femme remplissant deux conditions
essentielles.
Certes, il est ou elle est passé par l'expérience de la nouvelle naissance, mais avec deux choses essentielles. Premièrement, c'est quelqu'un qui a été recréé. Quelqu'un qui a été métamorphosé.
2
Corinthiens 5, 17, un passage connu de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas la plupart, pas le plus grand nombre. Toutes choses sont devenues nouvelles. La version parole vivante dit ceci: si quelqu'un entre en communion vivante avec le
Christ,
il devient un homme nouveau et il est recréé. L'ancien est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Et la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous réellement chrétien? Suis-je réellement chrétien? Suis-je réellement né de nouveau? Pas pas de nouvelle naissance véritable sans récréation. Premièrement, vous-même, vous êtes conscient que j'ai été récréé. Vous avez l'évidence d'un changement radical dans le style de vie. Et deuxièmement, ceux qui vous voient et ceux qui sont tout autour de vous peuvent aussi témoigner d'un changement. Deuxième élément important, au-delà de quelqu'un qui est récréé, c'est quelqu'un qui a la mentalité changée. C'est-à-dire la façon de comprendre, d'appréhender et d'approcher les choses. Dans Romains chapitre 12 au verset 2, l'apôtre parle de trois choses. Il dit, mais vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime ce que la version Parole Vivante dit. Écoutez ce qu'elle dit. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Il utilise une image forte. Mais il dit, ne vous conformez pas dans votre vie au principe qui régit le siècle présent. Ne copiez pas le monde et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt intérieurement transformer pour le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Je parlais de trois choses qui découlent. La première, la non-conformité au siècle présent. La non-conformité à la façon de voir fausse, populaire et répandue dans le monde. Et même par rapport à la richesse, nous avons une manière différente de la voir. Nous en parlerons demain. Notre richesse ne se limite pas à des éléments ostentatoires qui frappent que le monde aime. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que nous sommes non conformes au siècle présent. L'enfant de Dieu n'a pas besoin, parce qu'il est riche, de porter une grosse gourmette.
Moi, dans un moment, pour cette fois, la mission, à la force, il y a mon aîné.
Une chaînette avec 52 kilos d'or.
Ils ont mes matailles na kilos au Kenyaï.
Pas de conformité.
Kokani samate.
Les Congolais ils aiment le matuvisme.
Quand on a Congo à l'ingé de bas mon aïe.
Il a peu, mais il veut faire quoi qu'il a beaucoup.
Tazan à mon ké, bas mon tazan à mon.
J'aime faire. Mais attention.
Kéba.
Quelqu'un peut venir vous demander la main, il parle un bon français, un beau costume, vérifiez qu'il a un chez lui. D'autres, il habite une maison, il dort sur un lit manche courte.
Sosola ka motoza ko sengo lo boko.
Mais yoka il a étonga.
Oh, parce qu'il est falancé, il est falancé.
Tu t'attaches à lui, on vous mettra vous deux, surtout toi, dans la liste des héros de la foi.
Il faudrait
exercer ça. Le matuvisme.
Le grand
enfant de Dieu n'est pas conforme à ces choses.
Pour prendre 50 000, pour réaliser des soignants, pour réguler. Après là, il va rentrer à pied. Quand tu vois quelqu'un qui te donne 3 heures, il ne remet pas. Puis la prochaine fois qu'on m'accidente, il me dit quelque chose que tu as 5 000 là, je vais te remettre. Il t'a mis en confiance avant. Tu le chercheras, tu le trouveras plus. Non, conformité aussi à ta présence.
Le
deuxième a dit la transformation. Et le moyen de cette transformation, il parle du renouvellement de l'intelligence. Et troisièmement, le but. C'est que nous soyons rendus capables de discerner. C'est-à-dire distinguer nettement. Quelle est la volonté de Dieu? Et cette volonté de Dieu est stratifiée. Ce qui est bon, c'est le niveau le plus bas. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Seul un vrai chrétien peut arriver à voir la vraie pensée de Dieu concernant la richesse. Parce qu'il a eu son intelligence renouvelée. Il arrive à saisir la quintessence, c'est quoi la richesse. Les textes autres qu'il arrive, il a, mais c'est comme s'il n'a pas. Il a, mais il ne s'attache pas. Il a, mais il ne veut pas les crier sur le toit. Parce qu'il a saisi la
préponse.
L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3:7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de
Christ.
Il avait changé d'avis concernant certaines choses qui étaient d'une grande importance pour lui avant. Être circoncis le 8e jour. Être de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin.
Il
dit hébreu, né d'hébreu, de race pure. Et surtout pharisien de la race la plus, de la secte la plus ténace qui défendait la doctrine.
On
dit comment l'intelligence a été renouvelée. Je regardais cela comme une perte.
Alors
c'est pourquoi il est bon que nous puissions avoir notre intelligence renouvelée. C'est pour ça qu'il est bon, comme je l'ai dit au départ, nous soyons équilibrés. Il y a quelques années, le jeune dans la foi, un prédicateur nous a relaté son expérience. Il a dit toute sa vie très jeune, il a commencé à jouer au poker, aller au casino, surtout au poker. Mais là, plus tard, il a compris. Le problème n'est pas les cartes, le problème c'est qui et qu'est-ce qu'il en fait. La richesse. Ayant surtout affaire avec le chrétien. Je me suis rendu compte en étudiant la vie des gens, en étudiant la parole de Dieu, seuls ceux qui ont une relation forte avec Dieu sont rendus capables de gérer la gloire et la richesse.
C'est
là qu'intervient la troisième notion importante, la Bible. Pourquoi la richesse, les chrétiens et la Bible? La Bible à cause de 4 raisons. Premièrement, parce que le monde a ce qu'il appelle les indicateurs de la richesse. Des signes que les communs de mortels jugent nécessaires pour montrer que l'on est riche.
Signes
qui les distinguent par la qualité et la quantité de foi. C'est pourquoi il est bon que nous puissions consulter la Bible qui est notre boussole, notre constitution et notre référence. J'ai beaucoup aimé quand le pasteur Atom a commencé à parler de c'est comme s'il touchait certains points. Nous en parlerons dans les jours qui viennent. La richesse ne se limite pas seulement à l'argent.
On
peut être riche en amour.
On peut
être riche en idées.
On peut
être riche dans bien des choses. Certains ont comme richesse leur temps qu'ils peuvent donner au service des autres. Certains ont comme richesse la connaissance qu'ils peuvent mettre au service des autres. Quand le monde parle des richesses, le monde s'arrête à un niveau. Deuxièmement, nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir ce que la Bible permet ou autorise en termes de moyens et de méthodes d'acquisition de la richesse. Voilà pourquoi la Bible encore. Que faire et que ne pas faire? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pourquoi nous ne voulons pas écouter ce que monsieur, madame, tout le monde dit. Nous voulons consulter la parole de Dieu. Troisièmement, pourquoi la Bible? Nous avons besoin de savoir ce que la Bible dit sur la gestion des richesses, mais aussi sur les pièges que le fait de posséder peut entraîner, enfin que nous en soyons vaccinés. Quatrièmement, nous avons besoin de savoir comment protéger nos richesses, car il ne suffit pas d'avoir et surtout pas avoir pour un temps, car les vraies richesses sont intemporelles. Les vraies richesses traversent les générations. Et il y a des choses à faire pour que ça reste. Demain, nous parlerons de fausses et de vraies richesses. Et nous verrons qu'il y a des richesses que l'on peut protéger. Il y a une manière de le faire. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, est une mine d'or. Donc quelquefois même les chrétiens les plus assidus à l'église ne connaissent pas la vraie valeur. Christ parla à la femme samaritaine, a dit: si tu connaissais les dons de Dieu, si les chrétiens pouvaient savoir c'est quoi la Bible, qu'est-ce qu'elle a comme richesse. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, Paul dit à son fils dans la foi une chose profonde. Il dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. D'autres versions disent: tu connais la valeur des saintes lettres. Et j'aime les termes qu'il utilise, qui peuvent te rendre sage à salut. La parole de Dieu est une source de sagesse. Il dit: tu connais la valeur de cinq lettres qui peuvent te rendre sage. Les termes sages qu'il utilise là veut dire qui peuvent te communiquer une connaissance élevée qui, une fois appliquée dans la vie, ferait la différence. Et cette connaissance, nous la trouvons dans la parole de Dieu, pas ailleurs. C'est pour ça que je nous supplie: lisons, étudions, méditons la parole de Dieu. Créons du temps pour lire la parole de Dieu. Et façons certains programmes pour être en contact avec la parole de Dieu. Elle donne la connaissance. Elle éclaire. Et cet éclairage nous rend capable de vivre mieux et différent. Dans Psaume 119, verset 99, pour ne pas dire 99, le psalmiste dit: je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Le terme instruit veut dire: j'ai plus d'informations dont la qualité est élevée et prouvée. Et dit: où est-ce que je trouve ces informations dont la qualité est éprouvée? Dit: parce que je médite. Dans le 9e psaume, au verset 9, David, parlant de la parole de Dieu, déclare: les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Dans psaume 119, verset 130, la Bible dit: la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. J'aimerais nous donner un conseil: lisons, méditons, étudions la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 9, verset 2, Un homme a eu à découvrir un secret qui était caché. Qui a changé son style de vie et qui a changé le cours de l'histoire d'un peuple. La Bible dit, Daniel dit, je vis par les livres. La vérité était contenue, mais n'attendait que quelqu'un pour être en contact avec. Je vous supplie, Philadelphie, je vous supplie, hommes et femmes, vous qui venez en ce lieu, lisez la parole de Dieu. Il y a quelques années, un homme a parlé du retour, plus tard, corrigeant un recours à l'authenticité. J'aimerais nous encourager ce soir à un retour à la parole de Dieu. Créons du temps pour cela. Lisons la parole de Dieu. Méditons-la. Nous avons facile à lire un journal. À passer des heures et des heures. Mais combien de fois nous arrêtons pour lire les 100 livres? J'ai lu quelques citations. Des personnages célèbres dans le monde qui à un moment ou autre de leur vie ont été en contact avec la parole de Dieu et ont dit des choses qui m'ont étonné. D'abord Napoléon Bonaparte, au soir de sa vie dans l'île de Sainte-Hélène, il a dit cette chose que l'histoire a retenue. Il a dit, l'évangile possède une vertu secrète. Il dit, je ne sais l'aider. Il dit quelque chose d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et le cœur. L'évangile, ce n'est pas un livre, c'est un être vivant. Dans la conclusion, il a dit une deuxième belle phrase. Il dit, j'ai essayé avec des hommes et des armes de conquérir le monde. Mais en lisant les livres, je retrouve un homme armé que 12 personnes. Seule arme que l'amour. Et qui a conquis le monde entier. Il dit, un jour je me tiendrai devant lui au garde à vous et je lui dirai, tu es le plus fort. Le contact avec la parole de Dieu l'a changé. L'un des présidents les plus célèbres aux États-Unis, il dit, sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toute chose les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas. Et dans l'au-delà ne se trouve le Dieu. Blaise Pascal, un célèbre mathématicien, penseur, philosophe et écrivain français a dit ceci. Nous ne connaissons rien. Nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Sans l'écriture. Thomas Huxley, naturaliste, et qui était un adversaire du christianisme au début de sa vie, qui a passé une bonne partie de sa vie à rechercher l'origine des espèces dans l'océan Pacifique et dans des endroits reculés. Écoutez ce qu'il a dit. Je dois confesser combien j'ai trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps sans l'emploi de la vie. Il est mort en 1832, a dit. C'est dans la Bible que j'ai toujours puisé comme la plante dans le sol, nourricier de ma jeune intelligence qui vous épate. Jean-Jacques a dit ceci. Combien versatiles sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions comparées aux saintes écritures fortes et inébranlable. Walter Scott, un écrivain anglais, il a dit, il n'y a qu'un seul livre qui mérite d'être appelé le livre. Et bien, c'est la Bible. Il dit à ton voisin, lis la Bible. Psaume 119. Verset 9, verset 11, et puis verset 105. Le psalmiste dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et pour se diriger selon cette parole, il faut être en contact avec. Il dit au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le terme péché, ça veut dire rater l'objectif. Quand Dieu te donne, si tu ne veux pas passer à côté de l'objectif pour lequel il te donne, serre la parole. Et si tu dis la parole, qu'est-ce que la parole dit? Quand vous aurez les poches pleines et la main remplie de la parole, que ce soir il y a un véritable retour vers la parole de Dieu. Je prie que des hommes et des femmes retournent vers la source de ce qu'ils font, la force et l'équilibre. La parole de Dieu nous enracine comme un arbre. Quand viendra le vent et les tempêtes, nous n'aurons pas cédé. Un homme enraciné dans la parole de Dieu, gloire, richesse, élévation ne lui font rien. Il ajoute, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Elle nous éclaire comment gérer les avoirs, comment se comporter quand nos poches sont pleines. Je prie ce soir que nous retournions vers la parole. Elle nous éclaire. L'apôtre Pierre, écrivant ses contemporains, dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, il faut connaître ce qui est écrit. Elle nous sert de constitution, cette parole. Elle nous sert de cadre. Et nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est pourquoi ce soir, alors, je veux m'arrêter. J'aimerais nous poser la question. Quelle est notre relation avec la parole? Je me redonne ces deux appels. Fermons pas nos yeux ce soir. Ici, dehors, plus loin. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, prédicateur, prie pour moi ce soir? Je veux un meilleur contact avec la parole. Je suis chrétien, serviteur de Dieu. Mais je n'ai pas un contact permanent avec la parole. Je la lis de moins en moins. Mon pasteur me disait, Roland, fais attention de ne pas faire de la Bible un instrument de travail. Que tu la lis simplement pour aller prêcher. Que tu la lis simplement par rapport aux choses que tu vas dire aux gens. Il me disait que la Bible soit ton ami, ta nourriture. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui est trop conscient de son importance et qui ne veut pas s'élever à cause du camp, dira-t-on, je n'insisterai pas. Mais s'il y a quelqu'un qui veut être sincère et du prédicateur, prie avec moi. Et je priais avant ce séminaire, Dieu m'a dit, Roland, pose les bases, les fondements avant d'aller plus loin. Je n'aimerais pas payer certaines choses. Si ces choses arrivent sans le fondement, c'est pour votre perte. Mais si ces choses sont là, que la visitation vienne, rien ne pourra changer. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, prédicateur, prie pour moi? Je la lisais, je la lis moi. Je la méditais, je la médite moi. Je n'ai pas un contact permanent, systématique. J'aimerais retrouver cela. Si telle est votre prière, je vous demanderai de vous lever. Car je crois que Dieu va nous visiter. Mais Dieu veut que nous soyons en contact avec le livre. Le livre. Le livre. Commencez à lire déjà ce soir quand vous rentrez. J'ai plus d'une fois lu Proverbe Ecclésiaste, quelle richesse. Je ne me lasse pas de lire cela. Mais le deuxième appel que je lance, tu es venu en ces lieux. Et les choses qui ont été dites hier, peut-être encore un peu aujourd'hui, tu désires que Dieu te visite. Tu désires que ta condition change. Tu désires que Dieu change ton économie. Il va le faire. Avant de mettre des choses dans tes mains, Dieu veut d'abord mettre des choses dans ton cœur. As-tu Christ comme Seigneur et Sauveur? S'il te donne sans entre les mains, sans te donner dans le cœur, il serait irresponsable. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire en ces jours, dans ma vie, je ne crains pas Dieu. Dans ma vie, je n'ai aucune assurance que si je mourrais ce soir, je passerai l'éternité avec Dieu. Et j'aimerais me réconcilier avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui était autrefois attaché à Dieu et sa relation s'est petit à petit détériorée? Et tu as conscience que tu es un ex-enfant de Dieu. Quand je priais, Dieu me dit, Roland, il y a plusieurs ex-chrétiens. La façade, les gens savent qu'ils sont toujours chrétiens, mais eux savent dans leur cœur que le contact a été rompu. Ils sont toujours venus à l'église. Mais le cordon ombilical a été coupé. Je ne sais pas qu'est-ce que l'orchestre va nous jouer. Vous qui voulez recevoir Christ, Dieu m'a dit, il y en aura peu. J'ai dit, Seigneur, ça vaudra la peine de lancer cet appel. Cette soirée est une soirée de nouveau départ. Quelqu'un dans 10 ans, dans 20 ans se souviendra de cette soirée. Il y a un jeune homme qui est venu, tu es invité par une jeune fille. Quand le chant commencera, avance. Tu t'es dit au fond de cette prière ici. Ce qui te dérange, c'est les quand dira-t-on, l'autre va voir. Dieu m'a dit, viens. Tu ne regretteras jamais. Quand quelqu'un veut prendre une décision pour Christ, le diable essaie de lui montrer en grand ce qu'il va perdre. Mais jamais lui montrer ce qu'il va gagner. Car s'il peut pas gagner, il peut braver toute autre chose. Viens. Tu vas avec l'histoire et la destinée.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.